Sans fébrilité que nous consacrons ce nouvel épisode de Pop & Co aux chansons de Noël. Fébrilité parce que l'annonce de ce thème provoque soit un bel enthousiasme, soit un blanc dans la conversation. Je me suis dit qu'une heure sur Noël avant le 25 nous mettrait déjà à l'écart de l'actualité dans une bulle de féerie parallèle. Évidemment, je m'étais trompée. Parce que ce répertoire épouse les humeurs du monde. On écoute ces chansons pour un besoin de réconfort ou une envie de contestation. Chanter que ce moment de fête peut aussi être insupportable selon les époques. Je me suis dit aussi que cette émission serait garantie sans Tino Rossi. Et ça, ça a marché. Comme le dit Jacques Dutronc, Tino Rossi, c'est comme la cuisine à l'ail, ça permet de vivre vieux. Mais ça permet surtout de vivre seul. Jacques Dutronc, il y aura dans Pop & Co, et Johnny Hallyday, et Maria Carey, et Chili Gonzalez. En plus de signer un livre qui s'intitule « Plaisir non coupable », Chili Gonzalez est l'auteur d'un album de Noël, « A Very Chili Christmas ». Un disque où il reprend des standards au piano, de « Jingle Bells » à « Last Christmas » du groupe Wham. Un peu avant midi, on va donc soulever le capot d'une des chansons arrangées par Chili Gonzalez et interprétée par Jarvis Cocker et Feist. Même en 2020, Noël existera donc. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Toutes les pop stars ont chanté Noël. Tiens, on sonne. Qui cela peut-il bien être ?
Hello. You're the new butler.
C'est David Bowie. En 1977, Bowie participe à une émission de Noël présentée par l'américain Bing Crosby. Un show familial entièrement scénarisé dans un décor de demeure cossue où l'on dit des trucs comme « Tiens, on sonne ». Et comme de par hasard, un piano trône au milieu du living room. Et comme de par hasard, des partitions sont éparpillées de ci, de là. Et comme de par hasard, David Bowie dit
«
Oh, ça c'est la chanson préférée de mon fils. Il s'agit de Little Drummer Boy. Vous savez, petit tambour s'en va, parapapampam. En vrai, Bowie déteste. Pour que Bowie interprète la chanson malgré tout, les auteurs du show lui écrivent Fissa une partition en contrepoint. Ça donnera le morceau Peace on Earth, l'un des plus gros tubes de Bowie en Angleterre, c'est la magie de Noël. Peace on Earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our finest gifts we bring of glory. C'est Bowie, chanteur de Noël, qui fait événement ce soir-là. Mais celui qui joue un rôle décisif dans le répertoire du 25 décembre, c'est le petit vieux à sa gauche, en cardigan de laine. Le chanteur américain Bing Crosby. C'est lui, Bing Crosby, qui crée le format pop des chansons de Noël, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Et ça s'est passé en décembre 1941. À cette date, les actualités françaises annonçaient ceci.
Les escadrilles nippones attaquent Pearl Harbor, où se trouve mouillée la flotte des États-Unis. L'aéroport de Waller est incendié par les Japonais. 9 décembre 1941, la flotte américaine de Pearl Harbor est en partie détruite.
Quelques semaines plus tard, Bing Crosby entonne White Christmas et la chanson est comme un baume pour l'Amérique qui entre en guerre. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear
sleigh bells in the snow.
Esprit, es-tu là?
Je suis là. Je suis dans mon bureau, chez moi, en Normandie.
Il s'appelle Steven Gézot Vanier. Il est l'auteur de Jingle Bells, l'improbable histoire des chansons de Noël.
Avant ça, dans les années 30, il y a eu des premières tentatives d'une chanson qui a connu un succès ensuite, qui était Santa Claus is Coming to Town. Et dans les années 30, cette chanson, aucun label n'en voulait. L'industrie musicale est en pleine ascension et les labels disaient qu'est-ce qu'on va faire de ça, des chansons de Noël pour enfants, pas très vendeurs. Incroyable aujourd'hui. Et c'est le White Christmas qui, lui, va montrer qu'il y a un vrai marché derrière, un marché gigantesque. Parce que la chanson, quand ensuite elle ressort en 42, a un immense succès et va accompagner toutes les années de guerre et servir de prototype à la fois dans sa conception musicale, c'est-à-dire notamment dans cet art du crooning, dans la relation intime entre le chanteur sur une mélodie teintée de nostalgie, de mélancolie, à la fois de douceur, très chaleureuse comme ça, qui elle va servir d'archétype aux chansons de Noël qui vont arriver dans les décennies suivantes.
De White Christmas, c'est Irving Berlin. Sa famille s'installe aux États-Unis à la fin du 19e siècle pour fuir les pogroms. Beaucoup du répertoire américain de Noël est composé par des artistes de confession juive arrivés à New York. En fait, l'histoire même du répertoire de Noël est liée à celle des immigrants juifs d'Europe de l'Est.
Quand Irving Berlin, on lui demandait ce que vous écrivez, et un journaliste une fois qui lui a demandé ça, ce que vous composez en tant que juif, il dit mais pas du tout, moi je compose pas en tant que juif, je compose en tant qu'américain. Et beaucoup de ces compositeurs juifs de Tin Pan Alley, etc., vont en fait ajouter leur pierre à l'édifice de la chanson de Noël, renouveler le genre à partir des années 30, 40, 50, justement pour contribuer, pour dire oui, nous sommes américains, et embrasser la culture américaine, et Noël étant fortement ancré dans cette culture outre-Atlantique.
C'est-à-dire que c'est composer des chansons de Noël comme une façon de s'intégrer, quoi.
Tout à fait. Puisque les auteurs, compositeurs juifs ne connaissaient pas les célébrations de Noël telles que le faisaient les catholiques et les chrétiens, ils vont puiser aussi dans le folklore laïque, qui lui a été renouvelé au 19e siècle, aux États-Unis, avec l'invention du Père Noël, le mythe du traîneau, des reines, etc. Et qui là, pour le coup, est une tradition beaucoup plus laïcisée, et vont abondamment puiser là pour réécrire des chansons de Noël et apporter un nouveau répertoire, défendre les valeurs de paix, de partage, de générosité qui sont intimement liées à la tradition aussi religieuse.
It's Greek to me. Ready?
Quand je vous disais que toutes les stars chantaient Noël, nous sommes présentement en cabine avec Elvis qui reprend White Christmas. L'auteur Irving Berlin s'y était opposé, choqué qu'un dépravé du rock'n'roll pose sa voix sur sa chanson, mais Elvis l'a fait quand même.
I'm dreaming of a white Christmas.
Noël, Elvis, pourquoi ?
Elvis, donc, lui, démarre sa carrière, gros boom de provocation, de rebelle attitude. Il incarne la voix des teenagers qui commencent à arracher le baillon et s'affirmer sur la scène sociétale et musicale. Sauf qu'au bout d'un moment, les années passant, ça commence à devenir problématique, la polémique va bien pour un lancement, mais ensuite il faut s'apaiser, et pour retravailler une image, la chanson de Noël, mine de rien, rien de tel. C'est l'époque aussi où il part à l'armée, donc pareil, il se refait une bonne réputation, et Elvis va choisir de reprendre des chansons bien proprettes, des chansons traditionnelles, gentilles, naïves à souhait, enfin, pas toutes.
Parce qu'il en manque une chanson pour boucler ce Elvis Christmas album. Et la voilà.
Got no sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac.
This is my
Le titre, c'est Santa Claus is back in town. Le Père Noël est de retour en ville, donc, selon Elvis.
Ouais, c'est ça, et de retour en ville. Enfin, sauf que le Père Noël, c'est plus sur son traîneau tiré par des rennes, c'est un Père Noël en Cadillac qui fait des clins d'œil aux jeunes filles sur les trottoirs.
Elvis, à la fois, il veut se racheter une réputation en allant à l'armée, en faisant un album de Noël, en faisant... Et en même temps...
La nature revient au galop.
Il participe à l'émergence de la chanson de Noël à tendance coquine, quoi.
C'est ça, quoi qu'il y en a déjà eu avant, hein, parce que Eartha Kitt, avec son Santa Baby, était déjà à double sens, et déjà, la chanson de Noël s'affranchissait du répertoire enfantin pour s'adresser aussi aux parents.
C'est quoi Santa Baby ?
Ah, Santa Baby de Eartha Kitt ?
Ouais. Depuis cette conversation avec Steven Gisovanier, auteur de Jingle Bells, l'improbable histoire des chansons de Noël, depuis, disais-je, nous avons trouvé Eartha Kitt et son Santa Baby dans la discothèque. Eartha l'interprète en 53, elle est cuisse nue et dans les bras du Père Noël sur la pochette.
Santa Baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
Cette chanteuse-là, elle a beaucoup marqué. C'est une chanteuse qui a beaucoup joué sur une espèce d'image de vampire, comme ça, de femme fatale. Santa Baby, en fait, c'est son amant, un vieil amant, qu'on imagine être un vieil amant, qu'elle supplie, qu'elle menace même de quitter s'il lui offre pas Vison, Lampe Tiffany, et une Cadillac, je crois, c'est d'ailleurs qui est énumérée dans la chanson. Enfin, un arsenal de belles choses.
Bon. Et en France, alors? Le 25 décembre 1970, il n'a pas échappé à l'émission télévisée Aujourd'hui Madame que la chanson de Noël pouvait présenter un fort potentiel érotique. Aussi, l'émission offre-t-elle en cadeau à ses téléspectatrices la présence d'une vedette du répertoire de Noël.
L'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse vedette de la chanson française. Il a vendu 95 millions de disques et un seul de ses titres, Petit Papa Noël, a tiré à 11 millions d'exemplaires.
Alors, mesdames, Tino, c'est cadeau.
Parmi les téléspectatrices qui sont là et dont vous êtes un des plus beaux cadeaux de Noël, bien beaucoup se souviennent de cette époque. Madame Roland, vous souvenez-vous ?
Oui, très bien. Oui.
Et puis j'ai à côté de moi Madame Meunier. Madame Meunier. Alors, dites-moi vous aussi, est-ce que vous avez été un peu amoureuse de Tino Rossi comme beaucoup de femmes ? Votre mari nous regarde, mais il fermera les yeux.
Disons qu'il y a une petite place dans mon cœur pour Tino Rossi. Oui.
Comme pour beaucoup de femmes,
oui,
c'est ça.
Oui, bien sûr.
Et puis Madame Braque. Vous aussi, vous êtes très émue.
Très. Je crois que c'est un de mes plus beaux cadeaux de Noël.
De Noël.
Oui.
Cependant, Madame Roland, Madame Meunier, Madame Braque, Popenko vous propose une alternative. Voici Rufus Thomas avec un titre déniché sur une compilation du label Stax. Et Rufus nous dit « Je te donnerai tant de joie en me glissant dans ta cheminée. Je serai ton Père Noël, chérie. »
Cause when the youth is over, I showed you what to do.
Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
L'épisode du jour s'intitule Pop & Noël. Et si outre-Atlantique, le répertoire du 25 décembre oscille entre festivité et mélancolie, la tradition française explore plutôt la tragédie. Berthe Silva chanta Noël tragique, Edith Piaf interpréta Le Noël de la rue. En 1973, Johnny Hallyday s'inscrit dans ce registre avec le très autobiographique Noël interdit.
C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant aimé croire à l'histoire.
Au fond, celui qui modernise le répertoire français de Noël, c'est plutôt lui. Jacques Dutronc.
C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Balthazar.
Pour la fille du Père Noël, en 1966, Jacques Dutronc s'inspire de I'm a Man des Yardbirds, paru la même année, et que voici. Les règles d'une nouvelle identité sonore de Noël, c'est celui conçu par le producteur Phil Spector. En 63, est publié l'album Christmas Gift for You from Phil Spector, où figurent notamment les Ronettes. Steven Gézovanier, auteur de l'improbable histoire des chansons de Noël, est de retour dans Pop & Co et il vous entretient de l'apport de Phil Spector.
On va accélérer les mélodies, on va apporter des cuivres, on va apporter des voix, on travaille beaucoup sur le groupe vocal, du groupe vocal féminin, et un travail du son dans la profondeur. Spector, son grand apport, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée de dire que le studio est un instrument à part entière, que l'on peut utiliser. Alors il profite évidemment d'immenses progrès technologiques au début des années 60 qui révolutionnent, de même que le micro dans les années 30 a révolutionné totalement la conception musicale. Eh bien, lui profite dans les studios Gold Star à Los Angeles du meilleur de ce qui se fait. Il utilise les chambres d'écho, il va utiliser du mixage dans ses orchestrations, s'il travaille les orchestrations avec les meilleurs musiciens de session qui existent dans le circuit, et construire une texture. Alors il a donné à Noël aussi certains codes, en apportant de la clochette. Disons qu'il va construire une image sonore qui reflète elle-même Noël. C'est-à-dire que Noël n'est plus seulement dans les paroles, Noël est aussi dans le son lui-même. Et tout ce qu'on va entendre par la suite, jusqu'à Marécard, etc., est totalement dans cette idée-là. C'est-à-dire d'avoir une musique comme puissance évocatrice.
Une musique qui fabrique des images.
Exactement, et c'est ça le succès d'une chanson de Noël. Une chanson de Noël, c'est celle qui va fabriquer les images.
Dans l'hypothèse où cela vous aurait échappé, Steven Gézovanier a prononcé un nom et un prénom, Maria Carey. Donc nous y sommes. Où ça ? Au dernier tube mondial inédit dédié à Noël,
All I Want for Christmas is You, Mariah Carey, 1994.
I don't want a Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Maria ne voulait pas d'un album de Noël, mais son époux et manager réussit à la convaincre en lui disant qu'il s'agirait de rendre hommage aux Ronettes et autres groupes féminins des années 60. All I Want for Christmas is You s'inspire directement de l'album de Spector. Maria écrit les paroles d'une chanson d'amour, Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et celui qui assure composition et arrangement s'appelle Walter Afanasieff.
Il va aller chercher une orchestration, une façon de produire, des évocations, certains rythmes, etc. C'est vrai que quand on superpose certaines chansons, il y a vraiment des similitudes assez fortes. C'est assez marrant parce que, évidemment, pour sortir un album de Noël, ben, pour le sortir en novembre, il faut bien enregistrer en juillet. Donc Mariah Carey se retrouve chez elle à enregistrer. Et pour se mettre dans le mood, elle décore toute sa maison aux couleurs de Noël. Ils enregistrent chez elle à domicile. Et Afanasieff, à la sortie des enregistrements, dit « il manque quelque chose », etc. Et en fait, il va ajouter dans ses compositions quelques accords, et justement, dont on va retrouver la trace jusque Bing Crosby 1941, le fameux White Christmas. Donc c'est amusant, comme on voit là, à travers ce titre emblématique qui a marqué la dernière décennie, enfin en tout cas depuis 94, et qui là connaît un succès retentissant depuis une décennie, comment à travers lui se redessine toute la filiation de la chanson de Noël. Dans les années 90, donc milieu des années 90, elle retombe un peu, et c'est vraiment là depuis une dizaine d'années que c'est exponentiel. Quand on regarde les taux d'écoute sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, etc., quand on regarde les courbes, c'est incroyable, ça explose, hein, c'est des millions de visionnages, c'est assez dingue. Les ados des années 90 sont devenus parents à leur tour, et jeunes parents, et se remettent à fêter Noël, et je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui s'explique par là, parce que la chanson de Noël, elle se transmet aussi de cette façon, et c'est ce qui explique aussi sa longévité, c'est-à-dire que elle touche dès l'enfance, elle rebondit avec la parentalité, et comme ça elle se transmet de génération en génération, et en plus de ça, c'est aussi une machine à remonter le temps, hein. Écouter une chanson de Noël, ça nous ramène au monde de l'enfance. C'est lui qui synthétise finalement cette espèce d'esprit de Noël. Ce qui fait que Mariah Carey, à l'instar de l'ensemble des chansons de Noël, connaissent et reconnaissent un succès grandissant depuis effectivement le début du 21e siècle. Je pense que c'est aussi intimement lié effectivement au climat anxiogène, l'incertitude du lendemain, qui a aussi marqué les débuts de la chanson de Noël des années 40.
Donnez-moi 2 secondes, ok ?
Et maintenant dans Pop & Co, c'est le moment où Pierre Lapointe, auteur-compositeur québécois, sort de sa voiture.
J'ai enlevé mon manteau, donc on va s'épargner du bruit de manteau d'hiver. Alors.
Alors, tandis que le répertoire de Noël est fait de reprises à 90%, Pierre Lapointe vient de publier Chansons hivernales, album de Noël avec des morceaux inédits.
Est-ce que vous entendez le bruit de la voiture? Est-ce que ça gêne ou ça va?
Non, non, ça va. On est en voiture avec vous dans les rues de Montréal.
Quoi. Ok, d'accord.
Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous avez déclaré vouloir faire un album de Noël, Pierre Lapointe?
Ça a été un petit peu problématique parce que les albums de Noël, bon, il y a plusieurs maisons de disques qui se sont mis à faire des albums de Noël, je dirais, de manière assez mesquine, assez rapide, et ça a donné lieu à des beaux gros citrons. Et quand on parle d'albums de Noël, souvent, c'est qu'on est en fin de carrière, on veut faire un petit coup d'argent vite fait, bon... Là, l'avantage, bon, qui naît d'un désavantage, c'est qu'il n'y a plus d'argent du tout autour des albums tout court. Donc, comme il n'y a plus d'argent à faire, moi, j'ai décidé de me faire plaisir à chaque fois que je sors un nouveau projet. Et l'album de Noël m'intéressait parce que j'avais envie de jouer autour des codes. J'ai toujours dit que j'écrivais des espèces de petits aveux de défaite. Des moments où l'humain baissait la garde, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Et le fait de placer mes réflexions et mes petits aveux de défaite dans ce contexte-là, pour moi, ça devenait un terrain de jeu extraordinaire.
Parmi ces aveux de défaite transformés, il y a la chanson « Ça va, j'ai donné ». Récit de fête de fin d'année, selon Pierre Lapointe.
Ce n'est pas grave même si on décide de déserter. Le nouvel an va de toute façon commencer. Les gens sous qui buglent en pleurant sur leur passé. Ça va, j'ai donné. Les soirées fait semblant de s'amuser, le champagne qui nous donne envie de dégueuler, la musique trop forte, les amitiés d'une soirée, ça va, j'ai donné.
Et après ça, même à l'étape des arrangements, ça devenait une étape encore plus extraordinaire. Parce que là, bon, quand j'ai parlé avec le réalisateur Emmanuel Etier, je lui ai dit, bon, là, il faut pas que t'aies peur de jouer avec tous les codes. Il va y avoir de la clochette, il va y avoir des chœurs. On va avoir tout ce qu'on peut mettre de kitsch et de trop plein. On va le mettre sur ce disque-là. Je me suis permis de me laisser aller à tous mes fantasmes et tous mes désirs les plus kitsch, les plus surannés. Et puis, en sachant de façon un petit peu manipulatrice que dans le temps des fêtes, tout le monde est à fleur de peau et que mon procédé théâtral et mon procédé d'écriture de petits aveux de défaite allaient devenir encore plus puissants.
C'est-à-dire que cette période des fêtes, elle est précisément propice à des aveux de défaite. Pourquoi vous dites que tout le monde... Ah, je vous entends redémarrer là. Pourquoi...
Oui, non, c'est pas moi, c'est l'autobus à côté de moi. On va attendre un peu. C'est la ville. Je suis au centre-ville. Désolé.
Bon, bah, joyeux Noël.
Bah oui, on va se dire joyeux Noël, même si cette année, Noël risque d'être assez merdique. Mais bon, on va souhaiter joyeux Noël. On va souhaiter un Noël reposant, parce qu'il n'y aura probablement pas autre chose à faire que de se reposer cette année. Voilà.
Merci en tout cas, Pierre. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée. Ça fait plaisir.
Bonne route. Salut.
Au revoir. J'ai de la difficulté à raccrocher, là.
Appuyez sur le bouton.
On raccroche comment?
Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne.
Noël fait des tubes au cinéma aussi. La troupe du Splendide, d'abord au théâtre avec Le Père Noël est une ordure en 1979, se retrouve sur grand écran en 1982.
Oui, comme un garçon, je porte un blouson. Comme un garçon, un grand ceinture. Oui, entrez dans la maison du bon Dieu.
Attention, attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant.
Oh, de dessert, c'est une bûche?
Non, c'est Cloug.
Les musiciens aussi se disent que parfois Noël, c'est Cloug.
Comme la chanson de Noël est l'image même, l'incarnation même de la tradition, proprette, conservatrice, etc., les artistes vont se régaler d'aller bousculer ça. par la branche du rock, où là, le rock garage arrive, donc proto-punk sur la côte ouest américaine, qui là, dès 65, percute un peu la tradition. On a les Sonics. C'est le label qui dit, tiens, on ferait bien une chanson de Noël parce que ça fonctionne bien, on ferait un album. Appelle les Sonics en studio. Les Sonics sont pas grand chose. Et ils improvisent une chanson qui s'appelle carrément Don't Believe in Christmas. Ne croyez pas à Noël. Moi, je l'ai attendu, le Père Noël, j'ai jamais vu venir.
Tous les genres se sont appropriés les chansons de Noël, et donc le rap aussi. En 87, pour leur groupe Run DMC, ça se passe comme pour les Sonics, c'est leur label qui leur suggère d'enregistrer une chanson estampillée 25 décembre. Run DMC transforme l'essai en racontant Noël depuis leur quartier de Hollis dans le Queens. Noël dans le ghetto, c'est quoi? C'est ramasser le portefeuille du Père Noël avec des millions de dollars dedans. Comprendre que c'est cadeau et rentrer à la maison pour déguster la bonne cuisine de maman. Mom's cooking chicken and collard greens, rice and stuffing macaroni and cheese. And Santa put gifts under Christmas trees. Decorate the house with lights at night. Snow's on the ground, snow white so bright. In the fireplace is the Yule log. Beneath the mistletoe as we drink eggnog. The rhymes that you hear are the rhymes of carols. Like each and every year we bust Christmas carols. Christmas carols. Dernier classique pour refermer ce récit sur les chansons de Noël. Un morceau qui figure dans une comédie musicale de 1948 et qu'un duo a repris en 2011. Le titre, c'est Baby, It's Cold Outside. Les interprètes de 2011 sont Zooey Deschanel et M. Ward. Dans l'original, une femme hésite entre rester et partir, entre son désir et sa vertu, et l'homme tente de la retenir en lui disant « Chérie, il fait froid dehors ». En 2011, les rôles sont inversés, c'est le garçon qui hésite et la fille qui le retient.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
Baby, it's cold outside.
The evening has been
hoping that you drop in.
So very nice.
I'll hold your hands there just like
my mother will start to worry.
Beautiful, what's your hurry?
Father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace.
So really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't hurry.
Maybe just to have a drink more.
Put some records on while I
play. Neighbors might think.
Maybe it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No caps to be had out there.
Now I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break a spell.
I'll take your hair.
I ought
well.
To say no, no, no.
Mind if I move in close?
At least I want to say that I tried.
What's the sense in hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Maybe
I bet it's cold outside.
Rappelle les références de l'ouvrage de Steven Gézot-Vanier que vous avez entendu au cours de cet épisode de Pop & Co. Il est donc l'auteur de Jingle Bells, l'improbable histoire des chansons de Noël. Le livre a paru aux éditions Le Mot et le Reste. Quant à l'album de Pierre Lapointe, qui pose en costume de trappeur sous l'objectif de Pierre et Gilles, son disque s'intitule Chansons hivernales.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Une plongée dans une chanson du nouvel album de Chilly Gonzalez, c'est dans une poignée de minutes dans Pop & Co. Et tout de suite, c'est lui qui assure la programmation en choisissant un morceau parmi tous ceux diffusés en ce moment sur France Inter.
J'ai choisi le morceau « Dingue » de Danny. J'adore que Danny a sorti un nouvel album cette année. J'ai travaillé avec elle en 2005, je crois. Et c'était vraiment un moment tellement important pour moi. J'ai trouvé un peu ma famille en France. J'avais déménagé juste avant de l'enregistrer. Et Danielle sait exactement comment elle est aperçue. Et dingue, on dirait un morceau de rap presque, dans le sens où elle joue un peu avec sa réputation. Il y a beaucoup d'autodérision. Si elle est dingue, elle le sait. Et nous le savons tous. Dingue de Danny.
Le voilà, pantoufle aux pieds, peignoir de satin à revers vert, Chilly Gonzalez, musicien, pianiste en particulier.
On s'assoit ?
Bonne idée.
On est dans le salon d'amis à lui, un appart en bord de Seine à Paris.
C'est bon, ça marche ?
Oui.
Gonzalez aime la fiction, nous aussi, alors on dirait qu'il y aurait un feu de cheminée. Et on sert même une petite coupe.
Bonjour. Bienvenue à mon bar d'hôtel. Je suis votre pianiste. Vous pouvez me demander que je joue ce que vous voulez. Je sais tout jouer, en fait. Ben, à part les morceaux que je n'aime pas.
Ok, Gonzalez, jouez-nous Last Christmas, morceau de 1984 signé George Michael.
Et là, de le jouer au piano, ça donne ça.
Le nom de Chilly Gonzalez, on le trouve crédité sur des disques de Daft Punk ou comme arrangeur pour des albums de Philippe Catherine, Jane Birkin ou Charles Aznavour. Gonzalez vient de s'attaquer à des tubes de Noël qui vont de Jingle Bells à Mariah Carey, en passant par George Michael, donc.
Quand on enlève tout ce qui est arrangement, tout ce qui est un peu cheap, boîte à rythme, tout ce qui est la voix, on peut vraiment savoir si le morceau tient la route. Il y a aussi le fait que je rajoute du mélancolie.
avec mon jeu. Je joue d'une manière très retenue, d'une manière très nonchalante. Le fait que j'utilise un piano droit et pas un piano à queue, ça rajoute de l'intimité. En jouant au piano très simplement comme ça, on comprend que les morceaux des années 80, par exemple, il y a un côté dans les bons morceaux qui fait que le morceau soit intemporel. Et ça que j'aime bien chez les chansons de Noël, c'est qu'ils sont universels, ils sont faciles à chanter. Donc c'est souvent que rythmiquement, c'est très très simple. On a rarement du syncopation. Donc superficiellement, on peut dire que ce sont des morceaux avec moins d'intérêt, moins de surprises, moins des événements musicaux. En même temps, ça fait qu'on a un accès à ces morceaux parce qu'ils sont faits pour rassembler les gens. Et j'aime bien, ça me ramène à que la musique soit utile dans la société.
Pour vous, c'est vraiment important que la musique elle ait une utilité, qu'elle ait une fonction.
Oui, même j'écoute comme ça. J'ai de la musique que j'écoute dans le bain, j'ai de la musique que j'écoute quand j'ai besoin de l'énergie. Quand les gens demandent qu'est-ce que j'écoute comme musique, je pense toujours à « mais dans quelle situation ?» Je veux que ma musique fonctionne d'une manière très proche. C'est très intime comme relation avec le compositeur, mais également la musique de fond. Ça ne me dérange pas, j'étais pianiste de bar pendant très très longtemps. J'étais même pianiste dans un magasin de dessous. Donc j'ai un peu fait le tour de toutes les fonctions possibles. Et si je me sens utile, j'ai l'impression que je plais au dieu de la musique.
L'un des rares morceaux chantés de l'album de Noël signé Gonzalez, c'est ça.
Snow is falling in Manhattan.
Snow is falling in Manhattan, donc.
In a slow diagonal fashion.
C'est une reprise d'une chanson signée David Berman.
On the Sabbath, as it happens.
Paru en 2019.
Snow is falling in Manhattan. Oh, it looks like it might be a bad one.
N'imagineriez pas du tout chanter une chanson de Noël ?
Non, je suis plutôt pianiste. Des fois, je rappe, je chante un tout petit peu. Mais pour un morceau de Noël, il faut un niveau d'engagement avec chanter que je n'ai pas au fond de moi. Maintenant, la voix de Jarvis tout seul.
Oh, it looks like it might be a bad one. The good caretaker springs to action.
Il chante à peine en fait. Il murmure et.
Salts the stoop and scoops a cat in.
On respire avec lui.
Tests an icy patch for traction. And snow.
Oui, c'est vrai, dans des morceaux de pop où on a tendance de mettre du maximalisme dans toutes les pistes. Et on enlève toute trace de l'humanité. On enlève souvent les souffles dans les morceaux de gros pop.
Levels rising on the island.
Mais là, on était beaucoup plus dans une logique de musique jazz ou classique où on prend une photo de ce qui se passe. Et là, Jarvis est dans la même pièce que moi, donc il réagit à moi.
Drifting deeply down in Brooklyn.
Tout est enregistré live. Et on entend les erreurs, on entend les souffles. On entend que sa performance est plus une performance de comédien, presque de chanteur. Il déclame le morceau comme un poète.
And on the couch, beneath an Afghan.
Plus qu'un chanteur qui dise « Ok, j'y vais et du coup c'est intensité, virtuosité, volume. Non. Et sa voix, comme c'est murmuré, ça demande que nous, on se rapproche de lui pour lui écouter.
On Staten Island, Bronx and Queens. It's blanketing the city streets.
Tout simplement, je fais un petit deux notes voisins qui font comme un trill.
Un tri.
Comme un tri, mais un tri presque en ralenti. Donc un tri, normalement, c'est... Et là, on est... C'est un tri presque berceuse, fait avec un petit vibraphone de une octave qui fait très, très Noël.
Vous écoutez Pop & Co. Et présentement, on soulève le capot d'une chanson qui figure sur l'album de Noël de Gonzalez, le titre « Snow is Falling in Manhattan », interprété par Jarvis Cocker et Faced.
Snow.
Oui, en plus, bon, Faith, elle est canadienne, et donc je suis allé à Noël au Canada. On a enregistré, je crois, le 27 décembre. Il neigeait tellement au Canada, il y avait une grande fenêtre au studio, mais c'était, on aurait pu tourner le clip. Elle chantait le mot snow, et qu'elle étire le mot snow en 18 syllabes. J'ai pas écouté seul, vraiment, comme ça, et ça m'a fait chair de poule juste en écoutant le mot snow comme ça.
Snow is falling in Manhattan.
Et j'adore cette combinaison. Jarvis, évidemment, ça fait un peu le Père Noël. Et du coup, Feist fait l'ange de Noël, un truc plus féerique.
On écoute les cordes ?
Oui. Comme on a joué en live et qu'il fallait que je sois proche du violoncelliste, quand on écoute la piste seule, on entend beaucoup de piano quand même. Donc il faut le dire, ça c'est un peu le désavantage d'enregistrer comme c'était 1950. Mais l'avantage, c'est qu'on a du authentisme, le photo auditoire de ce qui se passe dans la pièce. On ne devrait pas vraiment entendre le violoncelle, on devrait plutôt le sentir comme une nappe. Ce qui n'est pas capable sur un piano où le son, il y a une attaque et après le note du piano, il meurt un peu. Et donc c'est un bon contraste avec un côté un peu nappe. C'est pas un truc virtuose d'orchestre, c'est pas non plus des violons qui s'envolent, c'est plus souterrain que ça.
C'est enveloppant.
Exact, c'est enveloppant, c'est plus un effet de son qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle se mette très proche de moi quand on jouait, parce qu'il fallait qu'elle trouve la manière de se mettre dans le piano.
Elle doit se couler dedans, quoi.
Oui, ça doit faire une espèce de brume de son, plus qu'une mélodie qui répond à la voix ou quelque chose comme ça. Avec quelques petits détails, des vrais instruments orchestrales, notamment une flûte de temps en temps, ben c'est assez dans le monde réduit de la musique pop pour suggérer quelque chose d'orchestral sans avoir recours à le truc un peu fromageux d'avoir l'orchestre qui rentre dans le deuxième refrain. On est un peu loin de tout ça en 2020, franchement.
Et donc, pour finir, la flûte. Elle fait une gamme, en fait.
You got it. Elle fait une gamme. Le fait de l'entendre tout seul, on dirait vraiment la flûtiste qui habite à côté, qui fait ses gammes. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ma voisine. Donc, j'ai vraiment l'impression d'entendre ces répétitions-là. Et moi, j'aime bien faire des mélodies comme ça parce que c'est une façon d'enlever quelque part l'ego du compositeur. Il n'y a pas un ego du compositeur qui se cache dans les morceaux de Noël. La plupart, on ne sait même pas qui a vraiment composé. Et de faire jouer une gamme, on a tous accès à jouer une gamme. Et donc, ça enlève la condescension qu'on a des fois.
La condescendance.
la condescendance qu'on entend dans la musique des fois, c'est que oui, nous les musiciens, on connaît mieux que vous. Et j'aime pas cette attitude. Je veux vraiment que ma musique soit ouverte, que les gens se sentent inclus. Mais c'est vrai qu'on est dans un truc un peu plus enfantin, peut-être plus naïf que si j'aurais écrit une mélodie avec tout mon ego du compositeur là-dedans.
Dans un livre que Chilly Gonzalez vient de publier et qui s'intitule « Plaisir au pluriel, non coupable », il raconte sa toute première écoute d'un album de John Coltrane avec le crooner Johnny Hartman. Et Gonzalez écrit « Ce n'était pas Coltrane la star. Dans l'album, il semblait n'être qu'un détail. Coltrane dialoguait plus qu'il ne monologuait. Manifestement, cette musique n'essayait pas du tout de m'impressionner. Elle me laissa d'ailleurs de marbre. C'était quoi ce truc à chier ?» Et un peu plus loin, Chilly Gonzalez rapporte que le tout premier ingénieur du son avec qui il a bossé l'avait surnommé Monsieur Branlette.
Ben oui, j'ai tombé dans un piège que malheureusement, il y a plein de musiciens qui tombent dedans. C'est de croire que la musique est faite pour impressionner les gens et pas créer une connexion. Mais ça m'a pris un peu de temps pour comprendre que c'est pas le but de la musique de dire « je suis un bon musicien ». Il faut que toute la virtuosité, toute la technique, toute la sagesse que j'ai mis à apprendre la musique proprement, ça devrait être invisible plutôt que mis en avant. Je dis toujours que je suis pas un artiste, je suis un entertainer. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je privilège cette connexion avec ceux qui écoutent. Et la connexion, c'est ce qui compte. C'est comme ça qu'on plaît au dieu de la musique.
On Staten Island, Bronx and Queens, it's blanketing the city streets, and the streets beneath are fast asleep. Songs build little rooms in time, and housed within the song's design is the ghost the host has left behind to greet and sweep the guest inside, stoke the fire and sing his lines.
A Very Chilly Christmas, c'est l'album de Noël de Gonzalez. Son livre Plaisir non coupable a paru chez Flammarion et Chilly Gonzalez sera en concert sur France Inter le lundi 21 décembre dans le cadre d'une triple affiche où figurent aussi François and the Atlas Mountain et Prudence. La soirée roulera de 21h à 23h. Cette émission réalisée par Coy Nguyen avec Rémi Sistiaga et Philippe Duclos ce matin, Ilinka Negulesco assure la préparation de Pop & Co et Jean-Baptiste Audibert nous aiguille pour la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co sera Pop and Amy comme Amy Winehouse et on soulèvera le capot d'une chanson de voyous. À samedi!